La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Voilà, bien chères sœurs et frères, en humanité et dans la foi, c'est un grand bonheur pour Anita et moi-même d'être pour ces moments de sabbat avec vous, pour célébrer Dieu, pour partager une réflexion ensemble, pour le louer, prier ensemble. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai souri quand il y a eu la belle histoire pour les enfants sur la vérité et le mensonge. Je souriais parce que venant du canton de Vaud, mais juste à côté, le canton de Genève, il est une expression à Genève quand on parle d'un mensonge pieux, comme on dit. Eh bien, ils disent « Nous allons ensemble économiser la vérité ». Voilà, très heureux de retrouver de nombreux visages que je n'ai plus vus depuis quelques siècles, je crois. Et puis, plein de nouveaux visages aussi qui vont enrichir mes souvenirs. Et c'est un grand bonheur de vivre ce moment-là. Et j'ai envie de vous parler de beauté aujourd'hui. On a parlé de musique, on a évoqué le violon. Et bien sûr, il sera présent tout à l'heure pour essayer, avec les moyens que j'ai, de célébrer des compositeurs extraordinaires et une musique qui vient d'un au-delà. Mais j'ai envie de ce matin, pour faire lien avec tout à l'heure, vous parler de la beauté. Et une fois n'est pas coutume, je vais introduire cette prédication par un texte qui nous remonte très loin dans l'histoire du christianisme, puisqu'il est de la plume de saint Augustin. Je pense que vous connaissez un tout petit peu ce personnage qui a marqué l'histoire du christianisme, cette personne qui elle-même reconnaît qu'elle a vécu une vie assez dissolue, jusqu'au moment où tout à coup il y a eu cette illumination qui lui a permis de redécouvrir à la fois ce Dieu qui l'attendait et ce Dieu intérieur qui l'attendait au travers de la beauté. Et ce qui me touche et qui fait lien avec le thème que j'aimerais évoquer avec vous, c'est qu'il nomme Dieu dans une magnifique prière au début de ses confessions, comme il les a nommées. Il nomme Dieu sans vraiment le nommer. Je trouve que c'est beau quand on peut nommer Dieu par des belles images, parce que Dieu a été tellement abîmé. On l'a tellement abîmé. Et en tant qu'aumônier, quand je viens et que tout à coup on évoque Dieu, je vois parfois des gens qui réagissent tout de suite, parce que Dieu pour eux, c'est toutes les hérésies, c'est toutes les déviances, toutes les perversions que bien souvent on a plaquées sur Dieu, ou on a créé un Dieu à l'image de l'homme. Donc j'aime bien les poètes, les mystiques, comme lui qui parlait de Dieu comme étant la beauté. Ou d'autres diront, et on trouve ça dans la Bible, le souffle. Ou la source d'eau vive, qui ne demande qu'à rejaillir, même hors de nous. Eh bien voilà ce texte. « Je vous ai aimé tard, dit-il, beauté si ancienne, beauté si nouvelle, je vous ai aimé tellement tard. Mais quoi? Vous étiez au-dedans de moi? Et moi, c'est au-dehors de moi que je vous cherchais. Vous étiez avec moi, et moi, je n'étais pas avec vous. » Retenu loin de vous par tout ce qui sans vous ne serait que néant. » Écoutez bien la suite. « Vous m'appeliez, » on parlait d'ouïe, « et voilà que votre cri force la surdité de mon oreille. Votre splendeur rayonne et elle chasse mon aveuglement. Votre parfum, je le respire, et voilà que je soupire pour vous. Je vous ai goûté, et me voilà dévoré de faim et de soif. Et vous m'avez touché, et je brûle du désir de votre paix. » Merveilleuse prière qui découvre ce Dieu qui n'est plus seulement le Très-Haut. Et vous le savez comme moi, l'Évangile est là pour nous dire qu'il n'est pas que le très haut, il est aussi le très bas, selon la belle expression de Christian Bobin. Il est le très bas en Jésus-Christ. Mais dans le souffle saint, le Saint-Esprit, Jésus est le en nous. Voyez-vous cette démarche de Dieu du très haut en nous. Voyez-vous cette démarche de Dieu du très haut qui devient le très bas pour être le en nous. Et c'est exactement cette expérience-là que vit saint Augustin, comprenant tout à coup les paroles de Jésus, le royaume des cieux, mais où est-il? Mais il est d'abord en vous. C'est là que Dieu nous y attend. Parce que c'est dans la chambre secrète du cœur qu'on le rencontre, comme disait Jésus quand tu pries. Va dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et là, dans le secret, dans cette chambre secrète, tu trouveras ton Dieu. Et cette expérience-là de saint Augustin qui a trouvé cette beauté intérieure, qui n'était pas la sienne, mais cette beauté intérieure qui l'habitait et qui l'attendait, prête à l'accueillir et à le sourire de l'intérieur. Oui, saint Augustin a été fasciné par cette beauté, on peut dire qu'il y avait chez lui une mystique de la beauté. Et c'est vrai que quand on y pense bien, seule la beauté oriente et élève la religion en spiritualité. Et s'il y a tant de laideurs qui sont portées par tant de religions et qui portent la peur, la violence et la haine, c'est parce qu'on a oublié de mettre au cœur du chemin spirituel cette démarche, cette faim, cette soif, cette saveur de la beauté. Et ce n'est pas pour rien que le mot « grâce », qui est au cœur même de l'Évangile, la grâce, on est au bénéfice de la grâce parce que la grâce évoque l'œuvre de Dieu en notre faveur, sa bienveillance, sa volonté de voir le bien en nous et de veiller à notre bien. C'est ça la signification de la bienveillance. Donc cette grâce qui est au cœur de l'Évangile, marquée par ce pardon qui nous est offert, mais elle évoque aussi la beauté, la grâce. Tout est grâce. Et ce n'est pas pour rien que la beauté nous mène à une autre grâce encore plus grande, qui est justement Dieu lui-même. L'accueil de la beauté donc nous élève vers celui qui est à l'origine de toute beauté, c'est-à-dire le Créateur, le grand artiste. Ça nous relie à cet infini qui nous dépasse, mais qui nous habite aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, puisqu'il est en nous. Donc ça laisse émerger de nous la part la plus noble, la plus spirituelle, la belle part de notre humanité qui ne demande qu'à rejaillir comme une source d'eau vive. Et remarquez que quand Jésus évoquait cette source d'eau vive, il ne disait pas qu'elle veut venir en nous, il disait mais qu'elle désire rejaillir hors de nous, en fleuve d'eau vive qui se partage. Et saint Augustin, reprenant cette parole de Jésus, rajoutait « Et la source, et la soif d'être bu. » Donc la beauté nous rehausse, elle nous harmonise, c'est-à-dire qu'elle met en nous de l'harmonie, c'est-à-dire qu'elle nous met en résonance avec le grand créateur de la beauté et on devient participant de son œuvre de création. Et la Genèse est là pour nous dire qu'on est participatif de cette œuvre de l'artiste. Sommes-nous à la hauteur? Ça, c'est une autre affaire. Elle nous rapproche donc du Créateur. Et vous savez, concernant la beauté, par exemple, exprimée par la musique, et d'ici ce soir, eh bien, on y reviendra, un homme qui a beaucoup marqué, qui était bien avant Jésus-Christ, mais qui a marqué le christianisme naissant, c'est Platon. Parce que les néoplatoniciens, dont Platon notamment, Plotin, a énormément influencé le christianisme, dont saint Augustin, eh bien Platon disait ceci: changez la musique et vous changerez la cité, la société. Tout cet impact de cette beauté, et ce n'est pas pour rien que Dostoïevski aussi, cet grand homme spirituel, écrivain, littéraire russe, disait que c'est la beauté qui sauvera le monde. Plus que jamais, face à la laideur, il faut s'ouvrir à la beauté. Comme disait Luther, la meilleure manière de combattre les ténèbres, c'est d'allumer la lumière. C'est la beauté qui va repousser les ténèbres. Comment David repoussait les colères de Saül? Par la beauté. On l'appelait, il jouait de la harpe. La musique. Vous savez que sous Salomon, il y avait 2000 lévites. Les lévites, ce sont ces prêtres chargés d'enseigner le peuple, chargés d'être les représentants de Dieu. 2000 Lévites, parmi tous les autres Lévites, étaient consacrés exclusivement à la musique. C'était des chantres. Dans beaucoup de nos magnifiques poèmes, nos prières chantées, les psaumes, par exemple Asaph, qui était un des chefs de ces chantres, Lévites, 2000 Lévites consacrés à la musique exclusivement. Et qui notamment, ces 2000, ont participé à la célébration de l'inauguration du Temple de Jérusalem. Et le texte nous dit que les 2000 chanteurs, musiciens, percussionnistes, trompettistes, vous imaginez, ont trouvé l'accord, qu'ils étaient en harmonie et qu'ils chantaient à l'unisson, alors le souffle de Dieu est entré dans le temple. Et la musique s'est tue, parce que sa mission était justement d'attirer Dieu. Dieu est lent, est là et silence. Eh bien, magnifique, étonnante aussi vision des anciens, que l'on retrouve dans la Bible et dans les anciens philosophes. Dans la Bible, encore une allusion. Dans les livres de la Genèse, la toute première mention des activités humaines, ce sont les trois petits-fils d'Adam, qui s'appelait, ça va vous donner des idées si vous avez des petits-enfants, Yabal, Tubal et Yubal. Yabal, il était le père des éleveurs, des agriculteurs. Vous êtes d'accord qu'une société sans l'agriculture est une société déséquilibrée. Le troisième fils, Tubal, ne confondons pas, était le père des forgerons. L'industrie. Est-ce qu'une société n'est pas en équilibre quand il y a l'industrie et l'agriculture ? Non, il manque le troisième, celui du milieu que j'ai sauté, qui est justement Yubal, père des joueurs de flûte et de harpe, instrument mélodique et harmonique. Il fallait qu'au cœur de la société, des activités humaines, comme au cœur de nos activités, qu'il y ait non seulement cet artisanat, l'industrie, à la fois l'agriculture, et au milieu, l'art, la beauté, l'harmonie. Dieu a placé cela au centre de l'activité. Magnifique et étonnante vision des anciens, disais-je, qui avait une manière d'envisager l'esthétique de manière très différente de notre conception d'aujourd'hui. Vous savez, nous sommes héritiers aujourd'hui d'une conception de l'esthétique, de la beauté, qui est très nombriliste. J'aime ou j'aime pas. Et qui est le critère ? C'est moi. J'aime ou j'aime pas. Et qui est le critère ? C'est moi. Un ego un petit peu développé. J'aime quelque chose parce que ça me fait du bien. Parce que ça me donne la chair de poule, parce que ça me donne des frissons et ça flatte mon oreille. Pour les anciens, ce n'était pas ça la beauté. La beauté, c'était ce qui était beau, bon et juste, ou vrai. Parce que beauté, bonté et vérité, on revient, eh bien c'était trois facettes d'un même diamant, indissociable. Un théologien suisse du 19e siècle, Urs von Balthasar, disait « Ce sont les trois transcendantaux. » Parce qu'ils sont reliés comme Dieu est trois et un à la fois. Beauté, bonté, vérité. Regardez quand Dieu crée le monde, encore une fois dans la Genèse. Qu'est-il dit à la fin de chaque jour du Créateur ? Dieu regarde son œuvre et tout était... Voilà, j'ai entendu deux choses. Il y en a qui disent « beau » et d'autres qui disent « bon ». Ben oui, parce que dans les traductions, on a choisi l'un ou l'autre, parce que le terme hébreu, tov, veut à la fois dire bon, beau et juste. Vous pouvez traduire que tout était dans sa vérité parfaite, et tout était juste, mais tout était beau, tellement beau. Donc tout était bon parce que ça fonctionne, parce que c'était juste. C'est tout lié. Et quand l'apôtre Paul, bien plus tard, écrira à son jeune disciple qu'il considérait comme un fils, Timothée, il lui disait, Timothée, mène le combat, le bon ou le beau. Ben voilà, c'est encore une fois la même chose, parce qu'en grec aussi, cette expression évoque à la fois ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, le juste combat. Voyez donc comme quoi cette conception des anciens, ce n'est pas seulement chez les philosophes, mais on la retrouve au cœur même de l'enseignement biblique. Et tout cela, il y a eu un basculement au 19e siècle où finalement c'est beau parce que ça me plaît. Non, c'est beau parce que c'est juste, parce que c'est vrai, parce que ça me permet de ne pas perdre ma juste voix. Et c'est pourquoi Platon disait, mais changez la musique et ça va sauver la société, parce que ça va lui donner la juste voix. Pour ne pas se tromper. Et quand on s'ouvre à la beauté, c'est pas simplement un petit luxe accessoire, mais c'est justement pour nous réorienter dans ce monde qui est tellement de plus en plus démuni de cette beauté, faute à nous, bien entendu, faute à l'humanité. Et cette approche était ancrée chez les anciens dans une étonnante notion qu'ils appelaient l'analogie de l'air. L'analogie, qu'est-ce à dire? Et ça fondait la théorie de tous les métiers. C'est-à-dire qu'une chose que l'on crée ne sera efficace que dans la mesure où elle est belle, juste et bonne. C'est-à-dire que dans la mesure où l'artisan est conscient de créer quelque chose qui est le reflet, et on en vient sur le thème, est le miroir imparfait, certes, puisqu'il sort de nos mains, mais le reflet d'une autre réalité supérieure, qui est celle de Dieu. Et tout ce qu'ils entreprenaient devait toujours être dans cette analogie, comme cette ombre et ce reflet d'une autre réalité supérieure. C'est comme si l'on crée, nous, un petit microcosme qui ne sera efficace, beau et juste que dans la mesure où il est une reproduction symbolique par analogie du microcosme céleste qui est le lieu de la présence parfaite et divine de Dieu. Il faut le reconnaître. Cette vision de se dire tout ce qu'on entreprend, et nous-mêmes, nous sommes comme des fragments d'hologramme. Vous savez ce que c'est qu'un hologramme? C'est intéressant, on peut prendre un petit fragment de cet hologramme et puis il contient le tout. En chacun de vous, il y a ce fragment de Dieu. Et en même temps, Dieu est contenu en chacun de vous. C'est extraordinaire, hein? Dieu en moi et moi en lui. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Être à la fois en Dieu et à la fois avoir Dieu en nous. Vous savez quoi? C'est un enfant, une petite fillette de 10 ans qui m'a fait comprendre cela. Une fois dans un camp, j'évoquais ce texte, j'ai dit, vous comprenez ça? Comment est-ce qu'on peut être en Dieu et avoir Dieu en soi? Puis la fillette a dit, j'ai compris. Elle m'a dit, c'est comme une bouteille. Vous retirez le bouchon, vous l'achetez dans la mer. La bouteille est dans la mer et la mer est dans la bouteille. Il faut juste retirer le bouchon. Ça, c'est la démarche spirituelle. C'est notre part. Le reste, se laisser plonger en Dieu pour que Dieu soit pleinement en nous aussi. Eh bien oui, on a perdu nos racines sacrées, il faut le reconnaître. J'ai évoqué il y a un petit instant le mot, la théorie des métiers. Les anciens, qu'est-ce qu'une théorie? Alors aujourd'hui, peut-être il y en a parmi vous qui pensent, oh là Thierry Lenoir, il faudrait peut-être arrêter avec la théorie, qu'on en vienne au concret. Hein. La théorie, c'est des mots. Nous on veut du concret, pragmatique. La théorie, autrefois, théo orao, littéralement, voir Dieu ou vision selon Dieu. Pour les anciens, la théorie des métiers, c'était au travers de l'artisanat, être conscient que ce que l'on produit grâce à Dieu est un miroir de cette autre réalité de Dieu. Et une théorie, c'est un engagement, une recherche, une quête spirituelle pour apprendre à voir Dieu autour de nous. On est bien loin de la théorie d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dites-vous bien, quand on élabore une théorie, c'est une approche spirituelle pour reconnaître Dieu dans notre environnement et dans notre quotidien. Et c'est ainsi que Platon, je reviens à lui, excusez-moi, aujourd'hui, voilà, c'est une fois n'est pas coutume, je puise dans des penseurs qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'évoquer lors de nos prédications. Eh bien, Platon, reprenant une histoire de son maître Socrate, raconte le fameux mythe, l'allégorie donc, de la caverne. Alors peut-être que vous avez encore quelques souvenirs, et puis les jeunes étudiants qui sont là, vous avez certainement étudié ça en philo. Qu'est-ce que c'est que l'histoire, la métaphore de la caverne? Je la rappelle en deux mots très succincts. pour nous faire comprendre que tout ce que l'on voit n'est qu'une ombre partielle d'une réalité totalement différente et autre. Platon imagine, ou Socrate si l'on veut, une société qui, dès la naissance, sont privées de liberté. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on est privé de liberté si c'est dès notre naissance? Ça a toujours été comme cela. Donc ils sont enchaînés par le cou, par les poignets, par les chevilles, dans une grotte, sans être conscients qu'ils sont des mollusques de grand fond, avec comme seul horizon face à eux un mur, le mur de la caverne, et tous ignorant que derrière eux, il y a une sortie. Et que, après cette sortie, il y a un chemin qui monte, qui passe derrière un mur, et pour faire très court, et qui arrive dans le monde d'en haut, le monde des vivants, où les gens circulent, se rencontrent, communiquent, transportent des objets comme des statues. La journée, le soleil brille et renvoie sur les murs de la caverne toutes ces ombres de tous ces gens qui circulent. Et la nuit, il y a du feu qui brûle et qui renvoie encore les ombres. Et du coup, tous ces gens emprisonnés dans cette caverne se disent, ben voilà, la réalité, c'est ça, la vie, regardez, il y a des êtres qui bougent devant nous et qui nous parlent, parce qu'ils n'ont pas compris que quand ils parlent, le mur renvoie leur propre voix. Dramatique société qui se contente d'ombres et qui ignore qu'ils sont devant des ombres et que la réalité est encore tout autre. Et voilà que nous dit Platon, il y en a un qui est libéré de ses chaînes. Je ne sais pas comment. Et c'est là qu'il découvre qu'il y a une sortie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va vers la sortie. Et au moment où il sort, c'est l'heure de midi, le soleil brille. Et voilà que tout à coup, ben, il ne voit plus rien. Évidemment, il est aveuglé. Alors dans cet aveuglement, il se dit, ben voilà, j'ai compris. En dehors de notre univers, en dehors de cet espace où nous sommes, où nous grandissons, où nous mourons, il n'y a rien, c'est le néant. Mais comme il est patient, petit à petit, ses yeux s'habituent, il découvre un chemin qui monte. Et il commence à gravir le chemin. Il passe à côté d'un étang, qui est un miroir. Et dans ce miroir, il découvre une autre réalité qui est assez semblable que celle qui était sur les murs de la caverne, mais cette fois c'est en couleur. Il dit, oh, ben voilà, maintenant j'ai trouvé la vérité. Elle est là, la vérité. Puis il continue à monter. Il passe derrière le mur et c'est là qu'il rencontre les vivants. Et qu'il se dit, mais ça, c'est une autre réalité. C'est la réalité d'en haut. Magnifique. Et dire que nous sommes enfermés dans une grotte pensant que tout ce que l'on voit est la seule réalité, mais quel néant, quelle absurdité. Alors il descend pris de compassion pour voir ses frères et sœurs, pour leur dire, mais attendez, mais ne vous contentez pas de cela, c'est pas ça la vraie vie. Ce n'est qu'un petit microcosme, ce n'est qu'un petit reflet, mais d'une autre réalité tellement plus vaste. Mais nous ne connaissons pas la vérité, mais la vérité c'est un chemin qui monte et que nous sommes invités à emprunter. Nous n'avons pas la vérité, mais nous sommes invités à marcher vers cette vérité et à la goûter par la beauté. Et tous se moquent de lui, parce que quand il est rentré dans la grotte, il voyait plus clair, il a trébuché, il est tombé, il s'est fait une bosse, il saignait, il avait les yeux brûlés par cette merveilleuse aventure. Et il arrive titubant vers ses frères et sœurs, j'ai trouvé la vraie vie et la liberté. Et tout le monde éclate de rire. Et tout le monde dit, mais on voit un fou qui a vécu une expérience dangereuse. Et plus il cherche à les libérer, plus ils se liguent contre lui, et Platon conclut, certains veulent le mettre à mort. C'est ainsi qu'ont été mis à mort tous les prophètes, tous les éveillés, tous ceux qui cherchent à nous ouvrir les yeux et l'attention à cette réalité supérieure. Alors vous savez, quand j'entends cette histoire, et que tout à coup je relis l'histoire de Jésus avec Nicodème, vous vous souvenez ce vieux maître religieux qui a, ça c'est mon hypothèse, était en pleine dépression. Pourquoi? Parce qu'il venait voir Jésus de nuit. Vous allez dire, mais non, parce qu'il avait peur. Non, il n'avait pas peur. La preuve, c'est qu'il a pris la défense de Jésus lors du procès et que nombre de pharisiens venaient voir Jésus. Donc, ce n'est pas un problème pour lui d'aller voir Jésus de plein jour. Donc, mon hypothèse, il vient voir Jésus la nuit parce qu'il n'arrive plus à trouver le sommeil. Et il est mal. Et il vient vers Jésus et qu'est-ce qu'il lui dit? Je viens te voir parce que tu es un être extraordinaire. On a envie de dire, mais quelle est la question pour éveiller quelqu'un en pleine nuit? Vous savez comme moi que les questions les plus brûlantes sont celles qui n'arrivent pas à sortir. Et Jésus entend ce qu'il n'a pas dit. Et Jésus va lui dire, Nicodème, tu peux naître d'en haut. Mais le terme grec ouvre un petit malentendu. Il peut être traduit naître d'en haut ou naître de nouveau. Et Nicodème, lui, ben, il dit « naître de nouveau, ça veut dire que ma vie est un échec, ça veut dire que je dois recommencer à la case départ. Mais si on vous disait, écoutez, maintenant, bon, votre vie s'est ratée, on reprend tout à zéro. Mais c'est insupportable. Mais comment est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère? C'est pas qu'une boutade, mais c'est de dire, mais je ne peux pas supporter l'idée de repartir tout à la case départ. » Jésus lui dit, mais non, tu peux naître d'en haut, parce qu'il y a deux naissances. Il y a celle d'en bas, et il y a celle d'en haut. Et cette deuxième naissance vient justement par une démarche d'attention, d'éveil, d'ouverture, de quête de ce chemin de vérité qui nous élève et qui nous fait sortir de cette torpeur, de cette grotte dans laquelle on est enfermé. Et je pense quand Jésus disait à Nicodème, tu peux naître d'en haut, mon hypothèse, c'est que Jésus connaissait le mythe de Platon. Quand l'apôtre Paul dira, aujourd'hui, nous voyons qu'au travers d'un miroir, le fameux texte qu'on a lu tout à l'heure, qui va... Ah mais c'est pas grave, ah, mais c'est... j'ai parlé trop vite. Mais oui, il me semblait bien qu'on n'avait pas lu. Vous connaissez ce texte d'un Corinthiens 13. Hein? Mais voilà, bonne idée. Allez, on y va.
Un Corinthiens 13, 9 à 12. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et pour ce deuxième texte, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Merci.
Merci. Voilà, ça tombait très bien. Eh bien oui, cette parole, cette métaphore du miroir, eh bien, nous rappelle certainement, et je pense que l'apôtre Paul, vous savez, comme moi, il connaissait les philosophes grecs, puisque à Athènes, hein, quand il a enseigné les Athéniens, il a été puisé dans le fond philosophique des Grecs. Donc, certainement qu'il connaissait le mythe de la caverne de Platon. Aujourd'hui, nous voyons toutes choses comme au travers d'un miroir. Et vous savez comme moi que ce miroir qu'il évoque n'était pas ce miroir. Comme aujourd'hui, on a des miroirs qui nous font voir plus que la réalité. Non, c'était un miroir très sommaire qui nous permettait de découvrir, d'avoir un aperçu vague d'une autre réalité. Et bien souvent, on se contente de cet aperçu vague. Non, ce miroir-là nous ouvre à un désir. Et c'est pourquoi chez les anciens, chez les mystiques, la notion du désir était très présente. Le désir de cette autre réalité qui nous vient pleinement que de Dieu. Eh bien, c'était cela aussi. On y reviendra dans un instant. Donc voilà, toute image visible pour les anciens n'était, aussi belle soit-elle, que le reflet imparfait d'une réalité, elle, sublime et parfaite. Vous savez que j'ai lu dernièrement une étude d'un critique d'art sur Léonard de Vinci. Vous connaissez certainement tous ces dessins de Léonard de Vinci, sublimes, notamment l'homme de Vitruve, on y reviendra tout à l'heure, ou Manpower pour ceux qui... Non, c'est l'homme de Vitruve. Voilà, c'est cet homme parfait dans la divine proportion, les bras écartés, les jambes écartées, et qui contient dans un cercle et dans un carré. Et c'est pas pour rien. Et autour de ce dessin, il y a plein d'écritures. Or, fait bizarre, quand Léonard de Vinci écrivait sur ses dessins, toute l'écriture était à l'envers. Il faut un miroir pour le lire à l'endroit. Alors longtemps on a dit que c'était un code secret. Écoutez, je vois des enfants ici, vous avez tous joué à écrire à l'envers et puis mettre un miroir. Le moindre enfant aura l'idée de prendre un miroir pour remettre l'écriture à l'envers. Donc il n'y a rien de secret. Et aujourd'hui les critiques d'art pensent que c'était un message spirituel et philosophique de Léonard de Vinci. Comme s'il disait « moi l'artisan, moi l'artiste ». Ce que je réalise n'est qu'une ombre, qu'un reflet d'une autre réalité. Ne vous trompez pas, Dieu écrit à l'endroit. Moi, je reflète son écriture, donc elle est à l'envers. Humilité de l'artiste, mais aussi conscience de réaliser quelque chose qui reflète une autre réalité encore plus vaste. Et c'est vrai que du coup, l'artiste est un créateur en miroir. Et nous sommes tous invités d'être un miroir de Dieu. C'est pas pour rien que nous sommes créés à son image, à son reflet. Donc notre mission, je dirais, c'est aussi là le cœur du sens de notre vie, c'est de refléter. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a créé un Dieu à notre image, alors que c'était nous qui étions l'image de Dieu. Donc, invitation à l'humilité aussi. Et puis, cet autre texte de l'apôtre Paul, que nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui dit ceci d'une manière assez étonnante à la fin. « Nous tous, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir, où on peut traduire comme un miroir, la gloire du Seigneur. Et nous sommes transfigurés en cette image de gloire en gloire, et c'est l'œuvre du Seigneur qui est le souffle, l'esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors, on peut le comprendre de deux manières, et qui sont tout à fait complémentaires. Première manière, eh bien, on contemple comme un miroir cette gloire. Ben, ça rejoint tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que tout ce que je peux découvrir de ces beautés qui reflètent Dieu, je suis conscient que néanmoins c'est un reflet partiel. Ce n'est qu'un miroir, ce n'est pas encore toute la gloire de Dieu parce que je ne possède pas cette gloire et je ne peux pas la définir. Donc ça reste de l'indescriptible, c'est quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas pour rien que dans une de ces fameuses paraboles du royaume, dans Matthieu 13, une des paraboles centrales, où Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qui devient un arbre tellement grand que les oiseaux viennent y nicher ». Vous vous souvenez de ce passage? Vous avez déjà vu un arbre de moutarde? Ben non, ça n'existe pas. C'est une petite plante, pas un arbre. Alors les interprètes se sont grattés la tête, ils ont dit non mais il ne voulait pas forcément parler de la moutarde. Mais si, c'est de la moutarde, parce qu'on sait très bien qu'il aimait la moutarde de Jésus. Il en parle plus d'une fois, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde aussi, disait-il. Et la moutarde, c'est bien la moutarde. Ben Jésus, au cœur de ces paraboles, et dans l'évangile de Marc, si je ne me trompe, Jésus évoquant cette même métaphore, le texte commence en disant « Jésus leur dit aux disciples, à quoi vais-je comparer le royaume des cieux ?» Comme si, « Ah, c'est dur de vous faire voir l'invisible !» Ah, la graine de moutarde qui devient un arbre, ça ne devient pas un arbre. Jésus est en train de prendre une image de la nature, de quelque chose qui est visible, mais il la déborde. Il en fait un arbre, et non seulement un arbre, mais qui accueille tous les oiseaux du ciel. Vous vous rendez compte? C'est comme pour dire, attention, ne pensez pas que vous possédez la vérité, que vous avez tout compris. Non, vous êtes en chemin, mais la vérité, elle est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, Jésus part du vécu, et puis il le transcende. Ça devient un arbre. Donc voilà, encore une fois, ce n'est qu'un miroir imparfait. Donc on peut très bien comprendre, nous ne voyons toute chose qu'au travers, et la gloire de Dieu, qu'au travers d'un miroir. Donc elle n'est que partielle, notre vision. Mais il y a une deuxième manière de le comprendre. Alors ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis regardé dans le miroir. Et tout à coup, je me suis dit, je contemple dans un miroir la gloire du Seigneur. Ça n'avait rien de glorieux, vous êtes d'accord? Et pourtant, Dieu est en chacun de vous. Contemplez comme dans un miroir, au travers de vous, la gloire du Seigneur. Et reconnaissez-le, et accueillez-le. Et du coup, on comprend mieux alors la suite. Et nous sommes transfigurés en cette image, parce que la vision que l'on a même de nous-mêmes, cette vision qui est transcendée par cette vision de Dieu et qui nous aide à le reconnaître même en nous et en l'autre, eh bien ça va nous transfigurer petit à petit en cette image. Et voilà que tout se met en résonance. tout se met en résonance parce que tout devient le reflet d'une autre réalité. Et vous comprenez ce passage de l'apôtre Paul dans Romains 1, verset 20, qui dit en effet, ce qui chez lui, c'est-à-dire chez Dieu, est invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, ben tout cela se voit fort bien depuis la création du monde, pour autant que l'intelligence le discerne dans ses ouvrages, pour autant qu'on rentre dans une démarche qui cherche, qui quête le divin au cœur même de l'humain et autour de nous. Tout à l'heure, je vais vous jouer du violon, cet après-midi. Vous savez, tu évoquais quelques éléments que j'ai transmis, je ne vais pas les répéter maintenant parce que voilà, mon temps arrive au bout et je vais m'arrêter. Je lui ai dit, j'ai une prédication en trois parties, je peux faire que la première, que la deuxième et la troisième partie. Je m'arrêterai à la première. Mais le violon était conçu par les anciens comme un réceptacle, d'ailleurs c'est un ensemble vide, un violon, qui est juste traversé par une âme, c'est pas rien, n'empêche, et qui a comme seule ouverture les ouïes. Vous savez que Zénon de Citium disait « La nature nous a donné deux oreilles et une bouche pour qu'on écoute deux fois plus qu'on ne parle », ce que je ne fais justement pas maintenant. Toujours est-il que le violon était considéré par les anciens, c'est-à-dire 17e, 18e siècle, comme le luth, même au Moyen-Âge. Ils le considéraient comme le lieu sacré où s'accordent le céleste et le divin. Comme l'être humain d'ailleurs, et c'est pas pour rien que le violon a une structure qui ressemble à l'humain. Et d'ailleurs on parle de la tête, du cou, des hanches, du ventre et du dos. Donc il y a une corrélation. Et les anciens disaient, c'est l'être humain, mais l'être humain dans une démarche spirituelle. C'est l'être christique, il disait. Et en même temps, c'est l'œuvre de Dieu pour l'humanité. Parce qu'il voyait à la fois le symbole de Jésus-Christ dans le violon et à la fois le symbole de l'être spirituel. Parce que c'est ce lieu où se rencontrent et s'accordent le ciel et la terre. Il y a par exemple une magnifique gravure du XVIIe siècle où l'on voit de Robert Fludd, où l'on voit un monocorde qui symbolise tous les instruments à cordes, avec toute une corrélation des éléments terrestres et des éléments célestes, magnifique, et à la tête, il y a un petit nuage où il y a la main de Dieu qui sort du nuage et qui vient accorder l'instrument, parce que la clé d'accordage est à la tête, parce que pour les anciens, la tête représente, représente Dieu, finalement. C'est cette vérité divine qui seule va donner le juste ton à notre existence. Et le corps du violon, les anciens disaient, c'est l'Église. C'est l'ensemble des fidèles qui se mettent en résonance et qui ont besoin de chercher l'accord à la tête. Et puis le manche, le fameux manche, où les doigts de l'artiste montent jusqu'à la tête, Hildegard de Bingen, cette grande mystique du XIIIe siècle, parlant du manche du luth, elle disait, le manche du luth, c'est l'échelle de Jacob. C'est là où les anges, les pèlerins, montent et descendent pour faire le lien entre le ciel et la terre. Vous rendez compte? Et les cordes? Je vais vous citer un texte du XVIIe siècle qui disait « Les cordes de violon doivent être en boyau d'agneau, car il faut que l'agneau soit tendu sur le bois comme Christ a été tendu sur la croix. » Vous savez que tous les violons et tous les luths datant du début XVIIIe siècle et fin XVIIe siècle, quand l'instrument est fini, le luthier plantait un clou comme ça. J'ai un violon du XVIIIe siècle, début XVIIIe siècle, il a le clou. Planté à l'intérieur dans le tasseau, donc un endroit invisible, et dans le manche du violon, ils plantaient un clou quand ils avaient fini. Et c'est une agression dans le corps de l'instrument, c'est le seul élément non naturel, un clou de fer dans ce bois où les cols, c'est des cols d'os, où les cordes, c'est du boyau, les crins de l'archet, c'est du crin de cheval. Et voilà un clou. Pourquoi? Il disait, pour faire mémoire. Et l'artiste qui joue doit toujours savoir que dans sa main se porte aussi le clou du Christ, qu'il n'oublie pas le sacrifice du Christ. Vous savez que mon luthier, qui est un spécialiste de la lutherie ancienne, mondialement connu, a découvert un vieux texte du XVIIe siècle qui donnait la recette d'une colophane, ce qu'on met sur l'archet pour qu'il y ait l'accroche sur la corde. Eh bien, c'était une colophane faite des trois éléments de la naissance de Jésus et les trois éléments de la mort de Jésus. Elle était cuite dans un chaudron d'argile, parce que nous contenons ce trésor dans un vase d'argile. Il y avait de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et il y avait la résine des trois bois qui, selon la tradition, ont fait la croix du Christ. Et c'est une colophane extraordinaire. Des gens viennent du monde entier chez Luc Breton, ce luthier qui habite en Suisse, pour lui acheter cette colophane parce qu'elle a une qualité d'accroche extraordinaire. Et je termine par là. Tout ce qui était fait justement dans cette analogie, non seulement c'est beau parce que du coup ça a du sens, mais en plus ça marche. Aujourd'hui, les violonistes mettent souvent des tendeurs au cordier, au niveau du nombril, si on prend le corps humain. Eh bien, ça charge le cordier et ça empêche les harmonies de se développer. On a oublié que l'accord doit se chercher à la tête et pas au nombril. Et dernière chose. Allez, c'est la passion, puis je m'arrête. L'âme du violon. Vous savez que cette petite pièce qui est au cœur de l'instrument, qui s'appelle l'âme, c'est intéressant, elle n'est pas collée, elle est en équilibre instable, mais elle tient par la pression des cordes. Il y a plus de 20 kilos de pression de cordes. Mais le problème, c'est que quand on joue, ben, ça vibre et l'âme, elle se balade. Donc il y a des moments où l'âme ne joue plus bien. Donc il faut aller voir le luthier qui va la remettre à la bonne place. Et du coup, la sonorité revient. Vous savez, parfois dans notre vie, comme un violon, ça joue plus très bien, ça sonne plus, il n'y a plus cette belle résonance, cette belle harmonie, mais d'urgence, il faut aller voir le luthier, qui passe grâce à une petite pique aux âmes, une pointe aux âmes, au travers des ouïes, et il remet l'âme à la place qui chante. Eh bien, il faut aller voir le grand luthier. Ça peut être quelqu'un qui en a confiance, on va partager nos émotions, notre âme. Il faut la mettre au centre aussi, l'âme. Et puis, il faut aller peut-être voir des thérapeutes qui peuvent nous aider, mais surtout le grand luthier aussi, qui est à voir. Ben, tout cela, c'est la leçon spirituelle du violon. Ben, vous voyez comme quoi, du coup, ça prend un autre sens. Et puis, dernière chose, l'âme, comme je vous ai dit, elle vibre, elle se déplace, donc il faut la remettre au centre. Le problème, c'est qu'autrefois, on mettait l'âme sous le chevalet, de manière à ce que l'âme puisse aussi soutenir les pressions des cordes. Vous savez, si on n'a pas une émotion qui est bien en place, une âme bien en place, ben les pressions de la vie, elles nous écrasent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait depuis le 19e siècle? On veut un réglage plus facile à jouer et plus facile à réaliser. Alors on déplace l'âme d'un centimètre. Moralité, au bout de 50 ans, 60 ans de ce réglage, le chevalet avec la pression des cordes s'enfonce dans la table d'harmonie, le dessus. Et l'âme n'est plus là pour soutenir parce qu'elle est déplacée, mais l'âme passe à travers la table d'harmonie. Vous savez comment les luthiers appellent ça? Oh, c'est une fracture d'âme. On appelle ça une fracture d'âme. Et du coup, là, le luthier doit réparer la table d'harmonie, mais elle a perdu ses harmonies. Et c'est dramatique. Et ils disent, oh, mais c'est normal avec le temps. Non, c'est pas normal. Simplement, on n'a plus la conception des anciens qui disaient tout doit être dans l'analogie. Alors, je vais m'arrêter là. Vous allez dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie, dans mon quotidien? Qu'est-ce que je vais en faire de tout ça? Eh bien, ça donne un sens immense à la vie. Vous savez, le sens de la vie, et là je parle maintenant en tant qu'aumônier, où je rencontre des patients qui souffrent, qui sont confrontés au non-sens, qui ont une maladie dramatique, qui ont vécu un crack dans leur existence dramatiques, qui les ont cassés. Ils me disent maintenant, quelle est la signification de tout ça? Mais il n'y en a pas! Parce que vous savez comme moi que quand on cherche la signification d'un drame dans notre existence, toutes les réponses seront perverses. À un moment donné, elles seront biaisées. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Et qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Où est-ce que je suis coupable? Et on s'autoflagelle. Et puis alors après, ils me diront, oh, mais alors si je ne trouve pas la signification, ma vie n'a plus de sens. Alors est-ce que ça vaut encore le coup de vivre une vie qui n'a plus de sens? Et on oublie que sens veut dire trois choses. Ça veut dire signification, mais ça veut dire aussi orientation, direction. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, mais maintenant à partir de là, qu'est-ce que je vais en faire? Et les anciens, justement, nous montrent que la vie n'a de sens que dans la mesure où on lui donne une direction qui est de la hauteur. Aujourd'hui, on parle souvent prendre distance, prendre distance. Moi, j'aime pas trop cette expression. Je préfère dire prendre de la hauteur. Et ça, c'est la vision des anciens. Prendre de la hauteur, avoir une vision plus vaste et plus élevée. Et puis, comme disait saint Augustin au départ, et on termine par lui, qui disait « Je t'ai goûté, je t'ai senti, je t'ai vu, tu m'as touché. » C'est ben, finalement, donner du sens à sa vie, c'est justement donner de la sensation à sa vie, retrouver la saveur de la vie. Et la beauté, elle est là pour nous redonner du sens, de la saveur. Eh bien, redonner du sens à sa vie, c'est pas seulement comprendre sa vie, parce que c'est souvent piégé, mais c'est redonner de la hauteur, une orientation et de la saveur. Et tout cela, la beauté est là pour nous l'apporter. Eh bien oui, les anciens nous apprennent quelque chose d'essentiel et de grand. Et je termine par une parole de l'apôtre Paul aux Colossiens. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. C'est-à-dire, quoi que vous réalisiez dans votre existence, quoi que vous fassiez, quoi que vous désiriez, quoi que vous disiez, eh bien que tout cela soit fait dans ce lien avec Dieu. Et alors, votre vie aura du sens. Quand on a compris que tout est un miroir d'une autre réalité, combien la vie peut devenir belle et savoureuse. Que Dieu vous bénisse. Amen.